Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Vers un nouveau gouvernement en Italie, le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate ont trouvé un accord. Giuseppe Conte devrait garder la présidence du Conseil. Le reportage à Rome d'Isabelle Labéry dans un instant. Boris Johnson suspend pour 5 semaines le Parlement britannique, 15 jours avant la date prévue pour le Brexit. L'initiative du Premier ministre suscite la fureur de l'opposition. Nous en parlerons avec notre invité Emmanuel Saulnier-Cassia, professeur de droit public spécialiste du Brexit. Les patrons français font leur rentrée à Longchamp. Le MEDEF qui veut sortir de son précaré économique pour investir les champs du social et de l'écologie. Le reportage à suivre d'Anne-Laure Jumet. L'Italie est peut-être en train de sortir de la crise politique ce soir. Les antisystèmes du mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche ont donc trouvé un accord pour former un nouveau gouvernement. Une nouvelle équipe appelée à remplacer l'Alliance populiste des 5 étoiles et de la Ligue de Matteo Salvini. Il reste une étape à franchir. Le président italien Sergio Mattarella doit valider ce nouveau gouvernement, peut-être dès demain. Le président du Conseil sortant, Giuseppe Conte, est convoqué au palais présidentiel. Il pourrait se succéder à lui-même. Le reportage à Rome d'Isabelle Labéry.
Ils sont enfin tombés d'accord et ils l'ont dit publiquement à la fin de leur entretien au palais du Quirinal. Oui à une nouvelle coalition jaune-rouge, centre-gauche et anti-système. Oui aussi au retour aux commandes de Giuseppe Conte, démissionnaire la semaine dernière, le patron du Parti démocrate Nicola Zingaretti.
Nous avons indiqué au président que nous acceptions la proposition des 5 étoiles sur le nom du président du Conseil. Nous voulons mettre fin à la période de la haine, des rancœurs et de la peur.
Les deux formations ont beau être à couteau tiré depuis des années, elles veulent surtout éviter des élections anticipées qui ne leur seraient pas favorables. Luigi Di Maio, le leader des 5 étoiles, échange donc son allié d'extrême droite avec un allié de centre-gauche, sans complexe.
Nous sommes convaincus qu'il n'existe pas de solution de droite ou de gauche, il existe des solutions, c'est tout. On nous a parfois reproché ces dernières années d'être d'un côté ou de l'autre. Pour nous, ces schémas sont largement dépassés. Et je tiens à dire que je ne renie pas le travail réalisé pendant ces 14 mois.
Tout n'est pas réglé. Si demain le président de la République donne son accord, la nouvelle coalition devra encore affiner son programme et s'accorder sur la répartition des différents ministères. Matteo Salvini, sur le point de perdre son pari, continue, lui, de demander la sanction du peuple par les urnes. 60 millions d'Italiens sont pris en otage, dit-il, par 100 parlementaires qui ont peur de perdre leur fauteuil.
Isabelle Labéry, envoyée spéciale en Italie, et ce soir le patron de la Ligue, Matteo Salvini, dénonce un gouvernement, je cite, « formé sur les indications de Paris, Berlin et Bruxelles ». L'unique ciment qui unit le Parti démocrate et les 5 étoiles, c'est la haine pour la Ligue, le premier parti d'Italie, affirme Matteo Salvini en référence à des sondages qui donnaient sa formation à plus de 36% début août. Si l'Italie semble sortir de la crise politique, le Royaume-Uni, lui, n'en finit plus d'y sombrer. Nouvelle épisode aujourd'hui, le Premier ministre Boris Johnson décide de suspendre le Parlement britannique pendant plus d'un mois à compter du 9 septembre. À leur retour, les parlementaires auront à peine le temps de discuter du Brexit prévu le 31 octobre. L'initiative de Boris Johnson a suscité la colère de tous ses opposants. Antoine Gignot nous appelle de Londres.
5 semaines de suspension en plein milieu d'une crise politique, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Royaume-Uni. Les députés vont quitter le Parlement début septembre pour y revenir le 14 octobre, 15 jours avant le Brexit. Ils n'auront du coup pas suffisamment de temps pour présenter de nouveaux textes de loi et bloquer la sortie de l'Union européenne. Colère dans l'opposition, les travaillistes dénoncent un affront scandaleux, les libéraux-démocrates parlent d'une déclaration de guerre, le porte-parole du gouvernement et les conservateurs pro-Brexit, eux, se réfugient derrière la procédure. Tout est normal, disent-ils, le Parlement va être suspendu comme à chaque changement de gouvernement. Les députés reviendront après le discours de la reine censé inaugurer une nouvelle session parlementaire le 14 octobre. Face au risque grandissant d'un Brexit sans accord, plusieurs députés conservateurs rebelles envisagent désormais d'organiser d'urgence un vote de défiance pour faire tomber le gouvernement. Les indépendantistes écossais mettent en avant la nécessité absolue d'arrêter Boris Johnson.
Antoine Gignot, correspondant au Royaume-Uni. Boris Johnson qui peut compter sur le soutien de Donald Trump. Boris est exactement ce que le Royaume-Uni attendait. Il prouvera que c'est un grand homme, a tweeté le président américain qui a promis aux Britanniques un accord de libre-échange après le Brexit. Invité de ce journal, Emmanuel Saulnier-Cassia, professeur de droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste du Brexit et de l'Union européenne. Bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Saulnier-Cassia, est-ce que l'initiative de Boris Johnson est légale du point de vue strictement constitutionnel ?
Oui, l'initiative de Boris Johnson est parfaitement légale. La prorogation du Parlement, comme on dit en droit anglais, est une suspension de la session parlementaire que peut parfaitement demander le Premier ministre à la Reine, qui a le pouvoir d'adopter cette suspension sur avis de son conseil privé. Donc, a priori, c'est légal. Il y a quand même un recours qui a été formé durant l'été pour s'en assurer auprès d'une juridiction écossaise, ainsi qu'aujourd'hui une demande de suspension provisoire de la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement en attendant le recours au fond qui devrait être audiencé le 6 septembre.
Même si cette suspension est particulièrement longue.
Oui, alors ça c'est la chose, si ce n'est inédite, un petit peu exceptionnelle dans l'époque contemporaine, puisque habituellement les prorogations du Parlement durent une à deux semaines, même si dans l'époque ancienne il y en a une qui a duré 10 ou 11 ans. Effectivement, c'est une durée assez longue et qui forcément donne des indications sur son but, c'est-à-dire d'empêcher toute tentative parlementaire de mettre des bâtons dans les roues de Boris Johnson pour une sortie sans accord éventuelle au 31 octobre.
Et c'est pour cela aussi que le président de la Chambre des communes, John Bercow, dénonce ce qu'il appelle un scandale constitutionnel ?
Oui, il dénonce un scandale constitutionnel aujourd'hui, mais je rappelle qu'il avait déjà indiqué il y a quelques semaines, lorsque l'idée de cette prorogation avait fuité dans les médias sur une proposition du conseiller spécial de Boris Johnson, Dominic Cummings, il avait déjà dit il y a quelques semaines, ce fameux speaker de la Chambre, qu'il s'opposerait dans toutes les possibilités que lui offre le souffle de son corps à une telle suspension du Parlement, parce qu'on ne peut pas empêcher la démocratie de fonctionner. Il faut bien dire que empêcher le Parlement dûment élu de fonctionner sur décision d'un Premier ministre qui n'a été nommé que sur l'aval de quelques parlementaires conservateurs et militants conservateurs, c'est vrai que c'est assez choquant.
C'est donc que Boris Johnson a peur d'essuyer un revers devant le Parlement britannique finalement.
En tout cas, il met tout en place pour encadrer la procédure selon les règles juridiques qui lui permettent de le faire, afin de s'assurer qu'il respecte sa promesse à l'électorat britannique que le 31 octobre, le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire avec accord ou sans accord. Pour cela, il est prêt effectivement à sacrifier la démocratie.
Alors justement, Emmanuel Saulnier-Cassia, est-ce que l'on peut dire que le scénario d'un Brexit sans accord est en train de se renforcer ?
Oui, depuis quelques jours et à peine semaines, on peut dire, notamment la rencontre avec les leaders français et allemands, on peut dire qu'on ne s'est jamais accroché autant d'un no deal. Je pense que Boris Johnson a tout à fait la personnalité qui lui permette, s'il le faut, d'aller jusqu'à cette extrémité, c'est-à-dire de faire sortir son pays sans que rien juridiquement ne soit certain. C'est-à-dire sans accord. Il sacrifiera son pays pour rentrer dans l'histoire afin de faire sortir coûte que coûte le Royaume-Uni de l'Union européenne, à moins qu'il ne s'agisse d'une stratégie extrêmement fine dont nous ne pouvons pas avoir les clés de compréhension dans une discussion qu'il aurait avec les leaders européens et qui permettrait de penser qu'un accord est encore possible dans les 15 derniers jours d'octobre, ce que je ne peux pas vous dire.
Et vous avez le sentiment que Boris Johnson est prêt à prendre le risque d'un no deal pour effectivement, comme vous le disiez, entrer dans l'histoire ?
Ah oui, je suis quasi persuadée. C'est difficile d'être persuadée dans cette histoire courte du Brexit, puisqu'on a vu, on a eu tellement de surprises que tout est toujours possible. Mais je suis vraiment persuadée qu'il est prêt à cela, c'est-à-dire sur le modèle de son, enfin son modèle historique bien aimé Winston Churchill, il voudra entrer dans l'histoire en faisant quelque chose de éventuellement scandaleux ou sacrificiel, et je pense qu'il est tout à fait capable de vouloir pour respecter la parole qu'il a donnée à l'électorat britannique que la sortie se ferait coûte que coûte le 31 octobre, il est parfaitement capable de le faire sans état d'âme.
Même s'il y a un risque économique majeur pour le Royaume-Uni ?
Oui, il y a un risque économique majeur. Le dernier rapport qui est sorti montre que des choses qui avaient déjà d'ailleurs été déjà montrées dans des rapports précédents de think tanks divers, que sur l'alimentation, les médicaments, l'essence, il y aura plusieurs mois de grandes difficultés d'approvisionnement pour le Royaume-Uni. Mais je pense que le Premier ministre a à l'esprit que de toute façon, ça finira par rentrer dans l'ordre et que quelques mois de difficultés valent bien son entrée dans l'histoire.
Emmanuel Saulnier-Cassia, professeur de droit public, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Emmanuel Macron a fait son choix, c'est une femme, Sylvie Goulard, qui devrait représenter la France au sein de la Commission européenne. Ancienne députée européenne du Modem, Sylvie Goulard avait été la première ministre de la Défense d'Emmanuel Macron. Les soupçons d'emploi fictif au sein du parti centriste l'avaient amené rapidement à démissionner, en même temps que François Bayrou et Marielle de Sarnez. Sylvie Goulard a fait l'essentiel de sa carrière politique à Bruxelles. Son portrait avec vous, Angélique Bouin.
C'est une consécration pour cette experte des affaires européennes dont tout le monde à Bruxelles loue les compétences. Conseillère politique du président de la commission Romano Prodi en 2001, puis eurodéputée entre 2009 et 2017, Sylvie Goulard était un membre très respecté de la commission en charge des affaires économiques et monétaires. D'anciens collaborateurs louent sa très grande connaissance des dossiers zone euro, union bancaire. Sa facilité également à échanger sur les dossiers techniques en plusieurs langues. Cette énarque de 55 ans manie avec aisance l'allemand, l'anglais et l'italien. Ombre au tableau, sa mise en cause dans l'affaire des emplois supposés fictifs d'assistants Modem au Parlement européen quand elle était députée. Elle est aussi accusée par certains de conflits d'intérêts pour avoir touché une rémunération de la part d'un think tank américain controversé. La candidate française devrait rencontrer très rapidement la future présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen. Au menu des échanges, le choix du portefeuille qu'elle occupera, sans doute un poste à connotation économique, mais rien n'est fait à ce stade. Ursula von der Leyen dispose de 2 mois pour composer et faire valider son équipe par le Parlement européen.
Angélique Bouin, correspondante à Bruxelles. Le MEDEF a fait sa rentrée aujourd'hui. Fini les universités d'été sur le campus HEC de Jouy-en-Josas. Place à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le thème « Nos futurs », non pas le slogan punk légendaire, mais « Nos futurs » au pluriel. Écologie, sociale, le MEDEF veut apporter ses solutions avec un changement de ton notable, Anne-Laure Jumet.
Oui, et ça s'illustre d'abord par des symboles. Ici, pas de bouteille d'eau en plastique, pas de climatisation et un objectif de zéro déchet pendant ces 2 jours. Dans son discours d'introduction, le président du MEDEF a détaillé son nouveau mantra sous les yeux de son prédécesseur Pierre Gattaz. Pour Geoffroy Roux de Bézieux, la première organisation patronale ne doit donc plus être seulement un MEDEF de combat, mais un MEDEF de solutions, vous le disiez, de propositions, avec parfois des accents qu'on entend peu chez un représentant patronal.
En France, l'ascenseur social, pas plus que l'escalier d'ailleurs, ne fonctionne. Il faut 6 générations pour qu'un fils d'ouvrier change de catégorie sociale. 6 générations. C'est un scandale, c'est le véritable scandale français. Le véritable scandale français, ce n'est pas que certains gagnent beaucoup d'argent grâce à leur talent. Mais c'est que tous ne puissent pas avoir cette opportunité.
Et face à ces grands défis sociaux ou encore climatiques, les entreprises ont leur rôle à jouer, martèle le président du MEDEF.
Dans un monde de multiplication des parties prenantes, regardez le poids des ONG sur le G7. L'État n'a plus le monopole de l'intérêt général. Et je vous le dis, chers amis, au même titre que les syndicats de salariés, au même titre que les ONG, les entrepreneurs, vous, sommes dépositaires d'une partie du bien commun. Pas plus que les autres parties prenantes, mais pas moi non plus.
Demain soir, 100 d'entreprises viendront d'ailleurs présenter ici un bilan chiffré de leurs engagements sur le climat. Voilà pour les solutions, mais le MEDEF de combat n'était pas totalement absent du discours du patron des patrons, qui a fait notamment entendre sa voix sur la question des retraites, histoire de rappeler au gouvernement ses lignes rouges à quelques jours de la rencontre prévue à Matignon.
Anne-Laure Jumet depuis la rencontre des entrepreneurs de France à Longchamp avec Marc Garvenès pour les moyens techniques. Le temps demain sera calme et moins chaud sur l'ouest et le sud du pays. Le soleil s'imposera après dissipation des nuages bas matinaux. En revanche, le ciel sera plus instable à l'est des Alpes, à la frontière allemande avec un risque orageux. Température minimale de 9 à 23 degrés de la Bretagne à la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 19 et 36 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetou.